Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 18 octobre 2016. Au sommaire ce soir.
En RDC, l'accord pour reporter les élections est dénoncé par l'opposition radicale.
Le président Nkurunziza a officialisé le retrait du Burundi de la CPI.
Trois roquettes ont été tirées sur Gao dans le nord malien.
La Russie annonce une trêve jeudi à Alep pour permettre aux civils de quitter cette ville.
Malgré le tollé en Israël, l'UNESCO adopte formellement une résolution sur Jérusalem.
L'économie et les sports, juste après le journal.
En RDC, l'accord entre la mouvance présidentielle et une frange de l'opposition pour un report de la présidentielle à avril 2018 ne résout pas la crise. Paris s'inquiète de risques majeurs de violence. Éric Maniarakiza.
Pour le chef de la diplomatie française, renvoyer l'élection à 2018 sans l'aval de l'opposition ne règle pas le problème. Jean-Marc Ayrault dit craindre un risque majeur d'affrontements et de manifestations violentes et de répression. Selon le patron du Quai d'Orsay, la seule façon de sortir de la crise dépend du président Kabila, renoncer à briguer un autre mandat, mais aussi fixer une date exacte de la présidentielle. L'Église catholique congolaise le demandait également avant de se retirer de ce dialogue, faute de rechercher un consensus plus large. L'accord annoncé lundi ne tient pas compte des exigences de la majeure partie de l'opposition. Le rassemblement constitué en juin derrière Étienne Tshisekedi n'entend pas accepter la prolongation de Joseph Kabila au terme de son mandat le 20 décembre. Par ailleurs, il a appelé à des journées ville morte demain mercredi dans tout le pays pour un avertissement à M. Kabila. L'Union européenne et la France menacent déjà de sanctions contre Kinshasa.
Toujours en République démocratique du Congo, 20 personnes ont été tuées en 3 jours d'affrontement entre pygmées et bantous. Les heurts ont éclaté à Kabalo, dans la province du Tanganyika, dans le sud-est du pays. À l'origine, un désaccord autour d'une taxe sur la récolte de chenilles destinée à la consommation. Les pygmées ont refusé de verser cette redevance coutumière aux bantous. L'incident fait craindre une reprise sanglante du conflit qui oppose ces deux communautés au Katanga.
C'est officiel, le Burundi quitte la Cour pénale internationale. Le président Pierre Nkurunziza a signé aujourd'hui un décret à ce sujet. On fait le point avec Eddy Sango.
Le président Pierre Nkurunziza précise que ce décret est la suite logique du vote la semaine dernière au Parlement burundais de se retirer du statut des Roms. Les ONG ont aussitôt réagi, accusant les autorités burundaises de vouloir cacher des crimes. Le Burundi est plongé dans des violences depuis 2 ans suite à la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat. Des centaines de personnes ont été tuées. Selon la CPI, le Burundi restera lié à la juridiction internationale au moins pour 1 an. Les enquêtes déjà ouvertes devront se poursuivre et Bujumbura est obligé de coopérer avec la CPI.
3 roquettes ont été tirées sur Gao dans le nord malien. Une jeune fille a été blessée. Le point avec notre correspondant sur place, Boubacar Touré.
Il était un peu plus de 4h du matin, heure locale, lorsque des roquettes ont été lancées en direction de la ville. Le bilan fait état d'une jeune fille légèrement blessée et une maison endommagée au quartier Atitibougou où une roquette est tombée. Quelques instants après, 2 hélicoptères ont décollé de la base militaire de la force Barkhane basée à Gao pour tenter de repérer les auteurs. Les populations prises de panique sont sorties néanmoins très tôt ce matin pour vaquer à leurs affaires. En tout cas, les terroristes sont toujours présents dans la zone et ne s'avouent pas vaincus. Les attaques piégées, les braquages et les enlèvements de véhicules sont courants dans la zone. Il faut rappeler que la dernière fois où des roquettes ont été lancées sur la ville de Gao remonte en avril 2015 où une jeune fille a été victime. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le roi Mohamed VI du Maroc entame ce mardi une tournée dans 3 pays africains. Son pays cherche à réintégrer l'Union africaine qu'il a quittée il y a plus de 30 ans. Les détails avec Nani Talani.
Le souverain marocain effectuera des visites officielles au Rwanda, en Tanzanie et en Éthiopie. C'est la première fois que le roi se rendra dans cette partie de l'Afrique anglophone. Ces pays ont un intérêt stratégique pour Rabat, qui a exprimé sa volonté de réintégrer l'Union africaine, et ce retour doit être validé par un vote au sein de la commission siégeant à Addis-Abeba. Le Maroc a officiellement demandé en septembre à réintégrer l'organisation panafricaine qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission du Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole est contrôlée depuis 1975 par le Maroc, qui veut une large autonomie sur sa souveraineté. Par contre, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, milite pour l'indépendance et réclame un référendum d'autodétermination. Le roi Mohamed VI avait d'ailleurs déclaré que la décision de son pays de réintégrer l'Union africaine ne signifiait pas le renoncement du royaume à ses droits sur le Sahara occidental.
Bousculade en Angola, au moins 8 personnes ont été tuées au cours d'un concert dimanche dans un stade de Benguela.
Pour parler de paix au Mozambique, les médiateurs internationaux ont annoncé la reprise des négociations entre le gouvernement et les opposants de la RENAMO, principal parti d'opposition, et ce malgré l'assassinat d'un négociateur de ce parti.
En Somalie, les islamistes Shebab mènent une offensive pour prendre le contrôle d'Afgoye. Les islamistes somaliens affirment avoir pris le contrôle de cette ville.
Et l'état d'urgence prolongé de trois mois en Tunisie, c'est ce qu'a décidé le président Beji Caïd Essebsi. L'état d'urgence, il faut le rappeler, a été instauré il y a presque un an en raison d'une série d'attaques djihadistes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Moscou a annoncé un arrêt immédiat des raids des aviations russes et syriennes sur Alep pour permettre l'évacuation des civils des quartiers rebelles. John Linden.
Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé que les frappes des aviations russes et syriennes ont cessé aujourd'hui. Selon lui, cet arrêt temporaire aidera à la mise en œuvre de la pause humanitaire prévue jeudi pour permettre aux civils de quitter les quartiers assiégés d'Alep et le départ des rebelles qui le souhaitent. L'arrêt des raids aériens va aussi faciliter les discussions sur la Syrie qui doivent démarrer demain à Genève. Après les semaines de critiques contre la brutalité des bombardements, la diplomatie américaine se dit sceptique au sujet de l'annonce surprise de Moscou. À Berlin, la rencontre demain sur l'Ukraine sera d'ailleurs suivie d'une réunion tripartite sur la Syrie entre les dirigeants allemands, français et russes. Les 250 000 habitants des quartiers est d'Alep, aux mains des rebelles depuis 2012, sont soumis depuis le 22 septembre à un déluge de feu. Le régime de Bachar al-Assad a lancé une vaste offensive pour reprendre cette ville.
Guerre au Yémen, de l'autre côté du détroit de Bab el-Mandeb. L'ONU a annoncé l'instauration d'un cessez-le-feu renouvelable de 70 heures au Yémen à partir de jeudi. Ce conflit a fait près de 7000 morts en 18 mois.
Le président américain avertit que la bataille pour la reconquête de Mossoul sera difficile. Une déclaration de Barack Obama qui intervient au deuxième jour d'une offensive lancée par l'armée irakienne et ses alliés pour déloger le groupe État islamique de la deuxième ville d'Irak. Ce mardi, les dizaines de milliers de combattants mobilisés pour cette campagne gagnaient du terrain. Entre 3 000 et 4500 djihadistes lourdement armés seraient retranchés dans la ville.
Et sommet demain à Berlin sur la crise ukrainienne. Vladimir Poutine, Angela Merkel, François Hollande et Petro Poroshenko, les quatre signataires des accords de Minsk de 2014, vont discuter de la situation dans l'est de l'Ukraine. Les participants, notamment le président Poroshenko, ne semblent pas s'attendre à de grands résultats. Cette rencontre quadripartite sera suivie d'une réunion à trois sur la Syrie.
Le gouvernement afghan a tenu des pourparlers de haut niveau en secret avec le mouvement taliban. Leurs représentants se sont rencontrés deux fois depuis le mois de septembre au Qatar afin de relancer les négociations de paix suspendues depuis 2015. L'AFP signale la présence d'un diplomate américain à ces pourparlers, mais Washington n'a pas confirmé l'information.
La justice iranienne a condamné un homme d'affaires américain et son père, âgé de 80 ans, à une peine de 10 ans de prison pour espionnage. Les deux condamnés ont la double nationalité américaine et iranienne. Téhéran les avait accusés de coopérer avec le gouvernement hostile des États-Unis.
L'UNESCO a officiellement adopté ce mardi une résolution sur Jérusalem-Est. La résolution présentée par 7 pays arabes au nom de la protection du patrimoine culturel palestinien a soulevé un tollé en Israël qui revendique le lien millénaire entre les Juifs et la ville de Jérusalem. Le texte a été validé ce mardi par les 58 États membres du Conseil exécutif de l'UNESCO réunis en assemblée plénière au siège de l'organisation à Paris. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Au Maroc, les délégués syndicaux du personnel navigant de la compagnie aérienne nationale ont appelé à une grève de 48 heures à partir de ce mardi 18 octobre. Ils réclament une augmentation des salaires, une majoration de la rémunération des heures de vol de nuit de 50% et l'instauration des frais de déplacement. De son côté, le syndicat des pilotes de Kenya Airways a annoncé la levée de son préavis de grève pour ce mardi. Le syndicat précise néanmoins que le débrayage n'est pas annulé, mais simplement mis entre parenthèses. Kenya Airways fait face à des difficultés financières. Fin juillet, la compagnie a subi une perte nette de 230 millions d'euros sur l'exercice annuel achevé le 31 mars 2016, soit la pire perte de l'histoire de la compagnie. Lafarge Holcim Maroc Afrique renforce sa présence sur le continent africain. La filiale, détenue à part égale par le cimentier Lafarge Holcim et la Société nationale d'investissement du Maroc, va donc racheter 50% du capital de la Société des ciments du Bénin et 54% des cimenteries du Cameroun, Siminkam, avec 1,7 million de tonnes.
Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive avec Timothée Donangmaï. Alors, bonsoir Timothée.
Bonsoir Gabi.
Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, le tableau des différents groupes sera connu demain.
Et oui Gabi, le tirage au sort aura lieu au stade de l'Amitié, c'est dans la banlieue de Libreville, avec dans le premier chapeau le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Algérie. Deuxième chapeau, Tunisie, Mali, Burkina Faso et RD Congo. Troisième chapeau, Cameroun, Sénégal, Maroc et Égypte. Et quatrième chapeau, Togo, Ouganda, Zimbabwe et Guinée-Bissau. Le Gabon, Gabi, confirme ainsi sa volonté d'organiser cette grande messe du football africain après les soucis suscités par les troubles post-électoraux qui ont secoué ce pays il y a quelques semaines.
Football européen, troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ce soir.
Dans le groupe E, choc entre CSKA Moscou et Monaco, leader du groupe avec 4 points, alors que Bayer Leverkusen affronte Tottenham. Dans le groupe F, le Real Madrid reçoit Legia Varsovie avec la possibilité de se démarquer de Dortmund, avec qui il est à égalité 4 points. Dortmund qui est en déplacement au Portugal contre le Sporting. Et dans le groupe G, Leicester, leader avec 6 points, reçoit FC Copenhague, tandis que Bruges joue contre FC Porto. Le groupe H verra à l'œuvre Dynamo Zagreb contre Séville et Lyon contre la Juventus.
Le Thaïlandais Morawi Makoudi, suspendu par la FIFA pour 5 ans de toute activité liée au foot.
Et la sanction est assortie d'une amende de plus de 9 000 euros. Selon la commission de discipline de la Fédération internationale, cet ancien président de la Fédération thaïlandaise de football s'est rendu coupable de contrefaçon et falsification. En juillet dernier, Morawi Makoudi avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis par un tribunal thaïlandais pour trafic. En 2013, des listes de membres désignant le président de la Fédération thaïlandaise de façon à assurer sa victoire.
Parlons cyclisme, Timothée Donangmaï, le parcours du Tour de France 2017 est-il connu?
Et oui, il est connu. Le départ sera donné le 1er juillet à Düsseldorf, en Allemagne. Long de 3516 km, le Tour sera moins montagneux qu'en 2016, mais visitera pour la première fois depuis 25 ans les 5 massifs montagneux de France, a fait savoir le directeur de la course, Christian Prudhomme.
Et il y a une triste nouvelle dans cette page sportive, ça concerne le Sénégal.
Oui, c'est le décès de l'ancien international sénégalais Christophe Sagna, décédé à 62 ans dans la nuit de dimanche à lundi à Quimper en France, des suites de maladie. Ce milieu de terrain a été demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1974 et demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1975. C'était sous les couleurs de la Jeanne d'Arc de Dakar. Il a ensuite entamé une carrière professionnelle en France qui s'est achevée en 86 à Quimper.
Merci Timothée Donangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Morgane Guiriec et Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, Morgane. Notre première escale est à Kinshasa.
En RDC, donc, signature de l'accord issu du dialogue national prévoyant le report de la présidentielle à avril 2018. Un gouvernement de transition va être formé et Joseph Kabila sera maintenu à la présidence jusqu'au prochain scrutin. Son mandat s'achève officiellement le 20 décembre. Le rassemblement, qui exige son départ et a boycotté le dialogue, a appelé à une journée ville morte demain mercredi pour contester l'accord. Nathalie Barge a joint le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound.
Pour nous, la signature de cet accord est un non-événement. Tout a été planifié, programmé pour qu'on en arrive là. M. Kabila, avec ses comparses et Edem Kodjo, étaient déterminés de faire un passage en force. Et ce passage en force ne fait que se résumer à accorder un bonus à M. Kabila. Pour nous, il est hors de question aujourd'hui que dans ce pays, on fasse marche arrière de 10, 20 et 30 ans. Nous avons une constitution que nous devons respecter. Il vous souviendra que nous sommes partis à Sun City. Nous avons mis la croix sur l'accession au pouvoir par des moyens perfides, pernicieux. Et pourquoi aujourd'hui M. Kabila peut se prévaloir être président à vie? Cet accord, c'est aussi une façon de légitimer Kabila au pouvoir après son mandat constitutionnel. Nous rejetons cela en bloc. D'ailleurs, notre peuple l'a prouvé le 19 et le 20 septembre qu'il n'accordera jamais à M. Kabila un jour de plus après le 19 décembre. Le 19 décembre, le peuple va s'assumer avec l'application sans faille de l'article 64.
L'accord précise que les participants ont pris l'engagement ferme de respecter la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez de cette clause?
Quand ils accordent à M. Kabila un bonus jusqu'en 2018, c'est ce qu'ils appellent le respect de la Constitution. Pour nous, le respect de la Constitution commence par le respect du mandat chef de l'État. Nous ne croyons pas qu'au stade d'aujourd'hui, que nous puissions remettre un faux débat pour commencer à discuter sur ce que nous avons déjà enterré à Sun City, madame. Nous rejetons ça en bloc et nous appelons par conséquent le peuple à rester chez eux demain, à observer la ville morte pour donner le carton jaune à Kabila en guise d'avertissement pour le 19 décembre.
Cet accord prévoit la constitution d'un nouveau gouvernement et l'on dit que Vital Kamerhe serait le favori pour occuper le poste de Premier ministre. Votre réaction?
C'est justement pour ça que Vital Kamerhe est parti dans ce monologue. Donc, M. Vital Kamerhe a estimé qu'il peut aujourd'hui bénéficier de ses propres intérêts, de ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. L'intérêt général aujourd'hui, c'est quoi, madame? C'est le respect de la Constitution. Nous avons tout un programme d'action que nous allons mener jusqu'au départ de Kabila le 19 décembre. Nous comptons mener des activités pacifiques jusqu'au départ de M. Kabila.
Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, se joint à Kinshasa.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la présidentielle américaine au lendemain de l'ultime duel télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump avant le scrutin du 8 novembre. Un débat crucial à l'heure où les scandales continuent d'ébranler les deux rivaux. L'un est accusé d'agression sexuelle et l'autre toujours hanté par l'affaire des emails. Cette avalanche de scandales est-elle en train de reléguer au second plan les vrais enjeux de l'élection? La campagne répond-elle aux préoccupations des Américains mais aussi du reste du monde? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Signalez aussi que vous pourrez suivre ce débat demain soir en direct sur voaafrique.com. Nous partons au Burkina Faso. Le Parlement autorise le retrait de plus de 100 000 parcelles de terre illégalement acquises sous le régime de Blaise Compaoré. Détail avec Issa Napan.
105 000 parcelles illégalement acquises, c'est le nombre exact de lupins de terre que les députés burkinabés instruisent de retirer à l'issue d'une enquête parlementaire diligentée dans 15 communes du pays et concernant la période de 1992 à 2015. Et au terme de 3 mois d'investigation, des noms de barons du régime de Blaise Compaoré ainsi que des opérateurs économiques très connus ont été épinglés à l'image de Boukari Jacques Niampa, ancien chef des infrastructures signature de Blaise Compaoré ou l'ancien maire de Bobo-Dioulasso, Salia Sanou. Quant au nombre des sociétés immobilières mises en cause, sont pointées celles de Aliseta Ouedraogo, belle-mère de François Compaoré, petit frère de l'ancien président, et Abdoul Service notamment. Pour l'activiste et leader du ballet citoyen Smoké, il faut aller plus loin, même si c'est déjà un bon début.
C'est très choquant de voir que certains possèdent des milliers de parcelles pendant que les Burkinabés n'ont aucun droit, n'ont aucune possibilité d'en avoir. Que beaucoup ont fait même base sur ces parcelles-là de la façon la plus mafieuse qui soit. Pensons qu'il faut effectivement sanctionner. Maintenant, comment est-ce qu'il va falloir sanctionner? Parce que prenons le cas où quelqu'un aurait acquis une parcelle, on va dire, de la façon la plus légale possible, avec un ancien propriétaire qui aurait usurpé cette parcelle-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir d'une certaine façon faire en sorte que justice se fasse. Donc déjà, bravo pour cette enquête. Il en faut d'autres, je pense, dans tous les autres secteurs. Même si nous estimons que certains sont un peu trop blancs dans cette histoire, lorsqu'on veut mener ce type d'investigation-là, il faut aller jusqu'au bout. Quitte à scier la branche sur laquelle on est assis, il faut le faire.
Dans la rue, les Burkinabés n'attendent que justice, quand bien même ils la souhaitent égale pour tous les fautifs, qu'ils soient du nouveau régime ou non.
Je loue l'acte du Parlement, mais notre inquiétude, il faudrait qu'il aille jusqu'au bout. Est-ce que réellement, c'est passé sur retirer et réattribuer.
Ça ne doit pas s'arrêter seulement aux membres CDP. Je me dis que non, la loi, elle est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit ceux du CDP seulement. Tout citoyen lambda qui ne respecte pas la loi doit être jugé, quoi.
Les députés espèrent ainsi qu'une prochaine enquête permettra d'aller au-delà des 15 communes déjà visitées et concerner l'ensemble du pays et tout le monde sans exclusive. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye a été reçu hier à N'Djamena par le président Idriss Déby Itno, qui est par ailleurs en exercice de l'Union africaine. Le point avec André Komnadjingar.
Au centre des discussions, le développement politique, sécuritaire et économique en Libye. Il était également question de prendre le point de vue du président tchadien en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine dans la recherche de la paix et de la stabilité en Libye. Pour Martin Kobler, le Tchad et la Libye ont un lien historique.
Le Tchad a une longue frontière avec la Libye. C'est très important de contrôler la frontière. On a des mercenaires tchadiens en Libye. Ce sont tous des problèmes qui inquiètent les deux parties. Parce que c'est important maintenant de restituer l'autorité de l'État en Libye. Nous avons depuis le mois de décembre dernier l'accord politique libyen. Et la mise en œuvre de l'accord politique libyen est bloquée. Le conseil présidentiel est à Tripoli, mais on a beaucoup de défis.
Répondant à la question du soutien militaire du Tchad au général Khalifa Haftar pour déstabiliser la Libye, Martin Kobler a déclaré que ce général est l'une des solutions pour la paix en Libye et qu'il ne faut pas négliger cela.
Nous savons qu'on a des mercenaires en Libye, on en a parlé. C'est pas la question du général Haftar. Je crois que tout le monde, y inclut le Tchad et le président l'a confirmé. Aussi, moi, je crois que le général Haftar doit jouer un rôle important, très important, dans la reconstruction d'une armée libyenne. L'accord politique libyen dit très très clairement que le conseil présidentiel, c'est le commandant suprême de l'armée. Et c'est très important maintenant de discuter comment l'armée libyenne est structurée, c'est quoi le rôle du général Haftar.
L'instabilité politique en Libye aujourd'hui n'est-elle pas la conséquence directe de l'assassinat du guide libyen Muammar Gaddafi? Pour le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la page de l'histoire est tournée et qu'il appartient aux Libyens eux-mêmes de faire preuve de maturité politique.
On a maintenant la situation qu'on a maintenant. Nous avons une détérioration de la situation depuis 2014. Si vous allez au marché à Tripoli, à Misrata, tout le monde dit nous voulons terminer le terrorisme dans le pays. Ce sont seulement les institutions fortes qui peuvent le faire. Le problème, c'est une Libye fragmentée. Je suis très inquiet sur une escalade militaire. Et les Libyens eux-mêmes doivent mettre fin à l'instabilité à Tripoli dans le pays entier.
André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
A signaler qu'une réunion regroupant les pays voisins de la Libye est prévue demain à Niamey au Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Présidentielle américaine 2016, la position de favorite d'Hillary Clinton a été confortée par de nouveaux sondages. Son rival Donald Trump tente le tout pour le tout pour remonter la pente. Jacques Aristide.
Mélania, l'épouse de Donald Trump, a accordé hier deux interviews télévisées pour défendre son mari après la diffusion d'une vidéo de 2005 dans laquelle il est enregistré racontant sa façon d'embrasser les femmes ou de les toucher sans leur consentement. « Ces paroles étaient insultantes pour moi et déplacées », a déclaré Melania sur Fox News. « Il m'a présenté ses excuses, j'accepte ses excuses et nous allons de l'avant ». Dans son interview à CNN, Mme Trump a vivement mis en cause la couverture de la campagne électorale par les grands médias américains qu'elle a accusé de partialité au détriment de son mari.
Et Jacques, les états-majors démocrates et républicains ont le regard fixé sur les 12 états clés qui détermineront lequel des deux candidats remportera la majorité au collège électoral en novembre.
Et bien malgré l'avalanche d'accusations contre l'homme d'affaires, les électeurs de l'Ohio semblent lui rester majoritairement fidèles. Selon une enquête CNN, qui le crédite de 48% des intentions de vote contre 44% pour Clinton. Mais en Pennsylvanie, en Floride et dans le Colorado, la démocrate est en tête selon Quinnipiac. En Caroline du Nord et dans le Nevada, d'après CNN, elle est très légèrement devant dans la marge d'erreur. Cet avantage local correspond à l'avance nationale d'Hillary Clinton, qui recueillit hier 45,9% des intentions de vote en moyenne, contre 39% pour Trump. La fraude électorale est très très courante, a lancé M. Trump pendant un meeting hier, devant une foule exaltée qui a scandé « Enfermez-la » visant Hillary Clinton. Évoquant l'affaire des serveurs privés utilisés par Mme Clinton, alors qu'elle était secrétaire d'État, M. Trump a dénoncé une collusion entre la candidate et le FBI. « Nous assistons à une entreprise criminelle », a-t-il lancé. Pendant ce temps, Hillary Clinton restait cloîtrée chez elle, près de New York, pour se préparer au troisième et dernier débat demain à Las Vegas. Elle devra sans doute être prête à répondre à la publication par Wikileaks de milliers de messages piratés du compte Gmail du président de son équipe de campagne, John Podesta, qui révèle les tergiversations et machinations politiques de la candidate. On y apprend notamment que lors d'une conférence privée en 2013, elle avait déclaré qu'en politique, pour réussir des négociations, il fallait avoir à la fois une position privée et une position publique, de quoi relancer les soupçons sur sa duplicité supposée.
Merci Jacques.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
De cette édition, Georges Léonard Sagnot était à la production, présentation Morgane Guériec et Gaby Dorcy.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. On continue la conversation sur Facebook avec nos près de 2 millions de fans. Posez des questions, partagez vos photos et vidéos. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.